Paris, livre 5, chapitre 4. Ce jour-là, une grande cérémonie devait avoir lieu à la basilique du Sacré-Cœur. 10 000 pèlerins assisteraient à une bénédiction solennelle du Saint-Sacrement. Et, en attendant 4 heures, l'heure fixée, Montmartre allait être envahi, les pentes noires de monde, les boutiques d'objets religieux assiégées, les buvettes débordantes, toute une fête foraine. Tandis que la grosse cloche, la Savoyarde, sonnerait à la volée, au-dessus de ce peuple en liesse. Comme Pierre, le matin, entrait dans le grand atelier, il vit que Guillaume et Mergrand s'y trouvaient seuls, et un mot qu'il entendit l'arrêta, le fit écouter, sans scrupule, caché derrière une haute bibliothèque tournante. Mergrand, assise à sa place habituelle près du vitrage, travaillait. Guillaume parlait bas, debout devant elle. « Mère, tout est prêt, c'est pour aujourd'hui. » Elle laissa tomber son ouvrage, leva les yeux, très pâle. « Ah, vous êtes décidé. » « Oui, irrévocablement. À 4 heures, je serai là-bas. Tout sera fini. » « C'est bien, vous êtes le maître. » Il y eut un terrible silence. La voix de Guillaume semblait venir de loin, comme déjà hors du monde. On le sentait inébranlable, tout entier à son rêve tragique, à son idée fixe de martyr, désormais cristallisé, enfoncé en plein crâne. Mergrand le regardait de ses pâles yeux de femme héroïque, vieillie dans la souffrance des autres, dans l'abnégation et le dévouement d'un cœur intrépide que l'idée seule du devoir exaltait. Elle l'avait aidé à régler les moindres détails. Elle savait donc son effroyable dessein. Et si la justicière qui était en elle, après tant d'iniquités vues et endurées, acceptait l'idée des expiations farouches, le monde purifié par la flamme du volcan, elle croyait trop à la nécessité d'être brave et de vivre sa vie jusqu'au bout pour qu'elle pût jamais trouver la mort bonne et féconde. « Mon fils, reprit-elle doucement, j'ai vu grandir votre projet. Il ne m'a ni surprise ni révoltée. Je l'ai admis, comme la foudre, comme le feu même du ciel, d'une pureté et d'une force souveraine. À toute heure je vous ai soutenu. J'ai voulu être votre conscience et votre volonté. Mais, une fois encore, il faut que je vous le dise, on ne déserte pas la vie. Mère, c'est inutile. J'ai donné ma vie. Je ne puis la reprendre. Ne voulez-vous donc plus être ma volonté, comme vous le dites, celle qui doit rester et agir ? Elle ne répondit pas. Elle l'interrogea elle-même avec une gravité lente. Alors, il est inutile que je vous parle des enfants, de moi, de la maison. Vous avez bien réfléchi, vous êtes résolu. Et comme il disait oui, simplement, elle répéta « C'est bien, vous êtes le maître. Je serai celle qui reste et qui agit. N'ayez aucune crainte, votre testament est en bonne main. Tout ce que nous avons arrêté ensemble sera fait. » De nouveau, ils se turent, puis elle demanda encore « À 4 heures, au moment de cette bénédiction ?»« Oui, à 4 heures. » Elle le regardait toujours de ses pâles yeux, d'une simplicité et d'une grandeur surhumaine dans sa mince robe noire. Et ce regard d'infinie vaillance, de tristesse profonde aussi, le bouleversa brusquement d'émotion. Ses mains tremblèrent. Il demanda « Mère, voulez-vous que je vous embrasse ?»« Ah, de grand cœur, mon fils, si votre devoir n'est pas le mien, vous voyez que je le respecte et que je vous aime. » Ils s'embrassèrent. Et quand Pierre, glacé, se montra, Mergrand avait repris paisiblement son ouvrage, tandis que Guillaume allait et venait, mettait un peu d'ordre sur une planche du laboratoire, de son air actif accoutumé. À midi, Au moment du déjeuner, il fallut attendre un instant Thomas, qui se trouvait en retard. Les deux autres grands-fils, François et Antoine, rentrés depuis longtemps, plaisantaient, se fâchaient avec des rires, en disant qu'ils mouraient de faim. Marie avait justement fait une crème, et elle en était très fière. Elle criait qu'on allait tout manger, que les gens en retard n'en auraient pas. Aussi, lorsque Thomas parut, fut-il accueilli par des huées. « Mais ce n'est pas ma faute, » expliqua-t-il. « J'ai eu la bêtise de remonter par la rue de la Barre, et vous n'avez pas l'idée dans quelle foule je suis tombé. Sûrement, les 10 000 pèlerins ont campé là. On m'a dit qu'on en avait empilé tant qu'on n'avait pu dans l'abri Saint-Joseph. Les autres ont dû coucher dehors, et à cette heure, ils mangent un peu partout, dans les terrains vagues, jusque sur les trottoirs. On ne peut pas poser le pied sans craindre d'en écraser un. » Le déjeuner fut très gai, d'une gaieté que Pierre trouva excessive et comme jouée. Cependant, les enfants ne devaient rien savoir de l'effrayante chose, toujours présente et invisible, dans l'éclatant soleil de cette belle journée de juin. Était-ce donc que, par moments, durant les courts silences qui se faisaient, entre deux éclats joyeux, la vérité passait ? L'obscur pressentiment des grandes tendresses qu'un deuil menace. Guillaume, pourtant, avait son bon sourire de tous les jours, un peu pâli peut-être, la voix d'une douceur de caresse. Mais jamais Mère Grand n'avait paru plus muette ni plus grave à cette table si fraternelle qu'elle présidait en reine-mère, obéie et respectée. Et la crème de Marie eut un joli succès. On la félicita, on la fit rougir. Brusquement, un lourd silence tomba de nouveau. Un froid de mort souffla et blêmit les visages, pendant que les petites cuillères achevaient de vider les assiettes. « Ah, ce bourdon !» s'écria François. « Il est vraiment obsédant. On en a la tête grosse et qui éclate !» La savoyarde s'était mise à sonner. Un son pesant, dont les ondes obstinées s'envolaient sur Paris immense. Tous l'écoutaient. « Est-ce qu'elle va sonner comme ça jusqu'à 4 heures ?» demanda Marie. « Oh, à 4 heures !» dit Thomas. « Au moment de la bénédiction, ce sera bien autre chose. La grande volée, le branle d'allégresse, le chant de triomphe !» Guillaume souriait toujours. « Oui, oui, ceux qui voudront ne pas en avoir les oreilles cassées feront bien de fermer leurs fenêtres. Le pis est que, si Paris ne veut pas l'entendre, il l'entend tout de même, et jusqu'au Panthéon, m'a-t-on dit. » Mère Grand restait muette et impassible. Ce qui offensait Antoine, c'était l'abominable imagerie religieuse que les pèlerins s'arrachaient. Ces Jésus de bonbonnière, la poitrine ouverte, montrant leur cœur sanguinolent. Rien n'était d'une matérialité plus répugnante, d'une imagination d'art plus basse et plus grossière. Et l'on quitta la table en causant très haut pour s'entendre au milieu du retentissement de la grosse cloche. Tous, ensuite, se remirent au travail. Mère Grand reprit son éternelle couture, tandis que Marie, assise près d'elle, brodait. Les trois fils étaient de leur côté, chacun à sa besogne, levant parfois la tête et changeant un mot. Et jusqu'à 2h30, Guillaume parut s'occuper aussi, d'un air très attentif. Pierre seul, les membres brisés, le cœur éperdu, allait et venait, les voyait tous comme du fond d'un cauchemar, bouleversés par les mots les plus innocents qui prenaient pour lui des sens terribles. Pendant le déjeuner, il avait dû se dire un peu souffrant afin d'expliquer l'affreux malaise où le jetait cette table rieuse. Et maintenant, il attendait, regardait, écoutait, dans une anxiété croissante. Un peu avant 3 heures, Guillaume, après avoir consulté sa montre, prit tranquillement son chapeau. « Eh bien, je sors. » Les trois fils, Mère Grand et Marie avaient levé la tête. « Je sors. Au revoir. » Pourtant, il ne partait pas. Pierre le sentit qui luttait, qui se raidissait, secoué d'une effroyable tempête intérieure, mettant tout son effort à ne montrer ni frisson ni pâleur. Ah, qu'il devait souffrir de ne pouvoir les embrasser une dernière fois, ses trois grands-fils, s'il ne voulait pas éveiller en eux quelques soupçons qui les mettraient en travers de sa mort. Et il se vainquit dans un héroïsme suprême. « Au revoir, les enfants. »« Au revoir, père. Tu rentreras de bonne heure ?»« Oui, oui. Ne vous inquiétez pas de moi. Travaillez bien. » Mère Grand ne le quittait pas de ses yeux fixes dans son souverain silence. Mais elle, il l'avait embrassée. Et il la regarda. Leurs regards un instant se confondirent. Tout ce qu'il avait voulu, tout ce qu'il avait promis, leur rêve commun de vérité et de justice. « Dites, Guillaume !» cria gaiement Marie. « Et si vous descendez par la rue des Martyrs, voulez-vous me faire une commission ?»«
Mais certainement. »
« Entrez donc chez ma couturière. Prévenez-la que je n'irai essayer ma robe que demain matin. » Il s'agissait de sa robe de noces, une robe de petite soie grise dont elle plaisantait le grand luxe. Quand elle en parlait, elle-même et tout le monde riaient. « Entendu, ma chère, » dit Guillaume, qui s'égaya lui aussi. « La robe de Cendrillon allant à la cour, le brocart et les dentelles des fées, pour qu'elle soit très belle et très heureuse. » Mais les rires se turent. Et il sembla, une fois encore, dans le brusque silence, que la mort passait. Un grand bruit d'ailes, un grand froid, dont le frisson glaça le cœur de ceux qui restaient là.
« Ah, cette fois, » reprit-il, « c'est pour de bon. Au revoir, les enfants. »
Et il partit. Il ne se retourna même pas. On entendit son pas ferme qui se perdait sur le gravier du petit jardin. Pierre, qui avait allégué un prétexte, le suivit à 2 minutes de distance. D'ailleurs, il n'avait que faire, pour ne pas le perdre, de marcher derrière ses talons, car il savait où il allait. Une certitude intime, absolue, lui disait qu'il le retrouverait à cette porte, ouvrant sur les substructions de la basilique, et d'où il l'avait vu sortir l'avant-veille. Aussi, ne tâcha-t-il pas de le retrouver parmi la foule des pèlerins dont le flot se rendait à l'église? Il se contenta de se hâter, gagna l'atelier de Jahan. Et comme il y arrivait, il aperçut, selon son attente, Guillaume qui se glissait par la palissade et qui disparaissait. L'écrasement, le désordre d'un tel concours de fidèles le favorisèrent à son tour, lui permirent de suivre son frère, de franchir la porte sans être vu. Un instant, il dut s'arrêter et respirer, tant les battements de son cœur l'étouffaient. De l'étroit palier, un escalier descendait, très raide, tout de suite obscur. Dans cette nuit de plus en plus profonde, Pierre se risqua, avec d'infinies précautions, posant les pieds doucement pour ne faire aucun bruit. La main au mur, il se guidait, tournait, s'enfonçait, comme en un puits. La descente d'ailleurs ne fut pas très longue, et lorsqu'il sentit la terre battue sous ses pieds, il s'arrêta, n'osa plus bouger, par crainte de trahir sa présence. Les ténèbres étaient d'une épaisseur d'encre. Un lourd silence, plus un bruit, plus un souffle. Comment se diriger? Quel côté fallait-il prendre? Il hésitait lorsque devant lui, à une vingtaine de pas, il vit luire une étincelle, la brusque lueur d'une allumette. C'était Guillaume qui allumait une bougie. Il reconnut ses larges épaules. Il n'eut plus qu'à suivre la petite lumière le long d'une sorte de couloir souterrain, maçonné et voûté. Le trajet lui parut interminable, et il lui sembla qu'il marchait vers le nord, sous la nef de la basilique. Puis, tout d'un coup, la petite lumière s'arrêta, se fixa. Pierre continua de s'approcher, doucement, resta dans l'ombre pour regarder. Au milieu d'une sorte de rotonde basse, sous la crypte,
Guillaume venait de coller le bout de sa bougie sur le sol même, et il s'était mis à genoux. Il avait dérangé une longue pierre plate qui semblait fermer un trou. On était là, dans les fondations. On y voyait un de ces piliers, un de ces puits où l'on avait coulé du béton pour soutenir l'édifice. C'était contre le pilier même que le trou s'enfonçait, soit fêlure naturelle lézardant le terrain, soit fente profonde produite par un tassement. D'autres piliers s'indiquaient aux alentours, que la lézarde paraissait aussi gagner, par des fendillements ramifiés en tous sens. Et Pierre, à voir son frère penché ainsi, tel qu'un mineur examinant une dernière fois la mine qu'il a préparée avant de mettre le feu à la mèche, eut la brusque divination de l'énorme et terrifiante chose. Des quantités considérables du terrible explosif apportaient là. 20 voyages faits avec précaution à des heures choisies. Toute cette poudre versée dans la fêlure contre le pilier, d'où elle s'était répandue au fond des plus minces fentes, saturant le sol à une grande profondeur, formant de la sorte une mine naturelle d'une puissance incalculable. Maintenant, la poudre affleurait sous la pierre que Guillaume venait d'écarter. Il n'y avait qu'à jeter une allumette, et tout sauterait. Une horreur glacée cloua Pierre un instant. Il aurait été incapable de faire un pas, de jeter un cri. En haut, il revoyait la cohue grouillante, les 10 000 pèlerins qui s'entassaient dans les hautes nefs de la basilique pour la bénédiction du Saint-Sacrement. La savoyarde mugissante sonnait à toute volée, l'encens fumait, les 10 000 voix entonnaient un cantique de magnificence et d'allégresse. Et tout d'un coup, c'était la foudre, le tremblement de terre, le volcan qui s'ouvrait, qui engloutissait en un flot de flammes et de fumée l'église entière avec son peuple de croyants. Sans doute, en brisant les piliers de soutien, en bouleversant le sol peu solide, la force extraordinaire de l'explosion allait fendre l'édifice, en jeter la moitié sur les pentes qui dévalent vers Paris, jusqu'à la place du marché, tout en bas. Tandis que le reste, le côté de l'abside, s'écroulerait, s'abîmerait sur place. Et quelle effroyable avalanche! La forêt brisée des échafaudages, la pluie des matériaux géants, coulant, bondissant parmi la poussière, s'abattant sur les toitures d'en dessous. Tout Montmartre lui-même menacé, par la violence de la secousse, de s'effondrer en un tas immense de décombres. Guillaume s'était relevé. La bougie posée à terre, dont la flamme brûlait haute et droite, projeta sa grande ombre, qui semblait emplir le souterrain. Cette petite lueur, dans tout ce noir, n'était qu'une étoile immobile et triste. Il s'approcha pour voir l'heure à sa montre. 3h05. Il avait près d'une heure à attendre, étant sans hâte, exact en sa résolution. Et il s'assit sur une pierre. Il ne bougea plus, d'une patience tranquille. La bougie éclairait son pâle visage, son grand front en forme de tour, couronné de cheveux blancs. Toute cette face énergique, que ses yeux éclatants et ses moustaches restées brunes, faisaient encore belle et jeune. Pas un de ses traits ne remuait. Il regardait le vide. À cette minute suprême, quelle pensée traversait son crâne! Et pas un frisson, la nuit pesante, le silence éternel et profond de la terre. Alors Pierre, domptant les battements de son cœur, s'avança. Au bruit des pas, Guillaume s'était levé, menaçant. Mais tout de suite, il reconnut son frère. Il ne parut pas étonné. « Ah, c'est toi, tu m'as suivi. Je sentais bien que tu avais suivi mon secret. » Et c'est un chagrin pour moi que tu en abuses en venant me rejoindre. Tu aurais dû m'éviter cette peine dernière. » Pierre joignit ses mains tremblantes, voulut le supplier tout de suite. « Frère, frère !» Non, ne parle pas encore. Si tu le désires absolument, je t'écouterai plus tard. Nous avons à nous près d'une heure, nous pouvons causer. Mais je voudrais que tu comprisses l'inutilité de tout ce que tu crois avoir à me dire. Ma résolution est formelle, je l'ai discutée longtemps. Je ne vais agir que selon ma raison et ma conscience. » Et de son air tranquille, il conta comment, décidé à un grand acte, il avait longtemps hésité sur le choix du monument qu'il détruirait. L'opéra l'avait un moment tenté. Puis, l'ouragan de colère et de justice balayant ce petit monde de jouisseurs, lui était apparu sans haute signification, comme entaché d'une basse jalousie de convoitise. Ensuite, il avait songé à la bourse. Là, il frappait l'argent qui corrompt, la société capitaliste sous laquelle râle le salariat. Seulement, n'était-ce pas encore bien restreint, bien spécial? L'idée du palais de justice, de la salle des assises surtout, l'avait aussi hanté. Quelle tentation de faire justice de notre justice humaine, de balayer le coupable avec les témoins, avec le procureur général qui le charge, l'avocat qui le défend, les magistrats qui le jugent, le public badaud qui vient là, comme à un roman feuilleton. Et quelle farouche ironie! Que cette justice supérieure et sommaire du volcan avalant tout, sans s'arrêter aux détails. Mais le projet qu'il avait longtemps caressé, c'était de faire sauter l'Arc de Triomphe. Là était pour lui le monument exécrable qui perpétuait la guerre, la haine entre les peuples, la fausse gloire, si chèrement payée et si sanglante, des grands conquérants. Il fallait le tuer, ce colosse, élevé à d'affreuses tueries qui avaient coûté inutilement tant d'existence. Et s'il avait pu l'engloutir dans le sol, il aurait eu cette grandeur héroïque de ne causer aucune autre mort que la sienne, de mourir seul, foudroyé, écrasé sous le géant de pierre. Quel tombeau et quel souvenir à léguer au monde! Les approches étaient impossibles, continua-t-il. Ni sous-sol, ni cave, j'ai dû renoncer au projet. Et puis, je veux bien mourir seul. Mais quelle leçon plus exécrable et plus haute dans l'injuste mort d'une foule innocente, de milliers d'inconnus, du flot qui passe. De même que nos sociétés humaines, par l'injustice, par la misère, par l'implacable dureté de leurs rouages, font tant d'innocentes victimes, il faut qu'un attentat passe comme le tonnerre, supprimant des vies au hasard de sa route, en son impassible destruction. C'est le pied d'un homme au milieu d'une fourmilière. Révolté, Pierre eut un cri d'ardente protestation. « Oh, frère, frère, est-ce toi qui dis ces choses ?» Guillaume ne s'arrêta pas. « Si j'ai fini par choisir cette basilique du Sacré-Cœur, c'est qu'elle était sous ma main, facile à détruire. Mais c'est aussi qu'elle m'importune et m'exaspère. C'est que je l'ai depuis longtemps condamnée. Je te l'ai souvent dit, on n'imagine pas un non-sens plus imbécile. Paris, notre grand Paris, couronné, dominé par ce temple bâti à la glorification de l'absurde. N'est-ce point inacceptable, après des siècles de science, ce souffler au simple bon sens, cet insolent besoin de triomphe, sur la hauteur, en pleine lumière? Ils veulent que Paris se repente, fasse pénitence d'être la ville libératrice de vérité et de justice. Non, non, il n'a qu'à balayer tout ce qu'il entrave, tout ce qu'il injurie dans sa marche de délivrance. Et que le temple croule avec son dieu de mensonge et de servage, et qu'il écrase sous ses ruines le peuple de ses fidèles, pour que la catastrophe, telle qu'une des anciennes révolutions géologiques, retentisse aux entrailles de l'humanité, la renouvelle et la change. « Frère, frère !» répéta de nouveau Pierre hors de lui. « C'est toi qui parles. Tu en es là, toi, le grand savant, toi, le grand cœur. Quel désastre a donc soufflé en toi ? Quelle démence t'agite pour que tu penses et que tu dises ces abominables choses ? Le soir d'éperdue tendresse où nous nous sommes confessés l'un à l'autre, Tu m'avais conté ton rêve d'anarchie idéale, le plus haut, le plus fier, la libre harmonie de la vie, qui, d'elle-même, livrée à ses forces naturelles, créerait le bonheur. Mais à l'idée du vol, à l'idée du meurtre, tu te révoltais encore, tu écartais le fait, tu ne faisais que l'expliquer et l'excuser. Que s'est-il donc passé pour que du cerveau qui pense, tu sois ainsi devenu la main atroce qui veut agir?
Salva a été guillotiné, dit simplement Guillaume. Et j'ai lu son testament dans son dernier regard. Je ne suis qu'un exécuteur. Ce qui s'est passé, mais tout ce dont je souffre, tout ce que je crie depuis 4 mois, cette abomination qui nous entoure et qui doit finir. Un silence se fit. Dans l'ombre, les deux frères en présence se regardaient. Et Pierre alors comprit, vit Guillaume changer, tel que le terrible souffle de contagion révolutionnaire passant sur Paris l'avait fait. Cela était parti de la dualité qui le rendait contradictoire. Le savant, d'une part, tout à l'observation et à l'expérience, d'une logique prudente devant la nature. D'autre part, le rêveur social, hanté de fraternité, d'égalité, de justice, exigeant le bonheur universel, dans un brûlant besoin de tendresse. Ainsi était né d'abord l'anarchiste théorique, ce mélange de science et de chimère, la société humaine rendue à la loi d'harmonie des mondes, chaque homme libre dans l'association libre régie par le seul amour. Théophile Morin, avec Proudhon et Comte, Bache, avec Saint-Simon et Fourier, n'avait pu satisfaire son désir d'absolu. Tous les systèmes lui apparaissant imparfaits et chaotiques, s'exterminant les uns les autres, aboutissant à la même misère de vivre. Jean Zan seul le satisfaisait parfois, par ses mots brefs qui dépassaient l'horizon, tels que des flèches terribles conquérant la totalité de la terre à la famille humaine. Puis, dans ce grand cœur que l'idée de la misère bouleversait, que l'injuste souffrance des petits et des pauvres exaspérait, l'aventure tragique de Salva venait de tomber comme un ferment de suprême révolte. Pendant de longues semaines, il avait vécu les mains fiévreuses, la gorge serrée d'une angoisse croissante. Cette bombe de Salva, dont l'ébranlement le secouait encore, les journaux d'une cupidité sans pardon qui s'était acharnée sur le misérable, ainsi que sur une bête enragée, l'homme traqué, chassé au bois, galopant, tombant aux mains de la police, boueux et mourant de faim. Et il y avait encore la cour d'assises, les juges, les gendarmes, les témoins, la France entière, tous contre un, lui faisant payer le crime universel. Et c'était enfin la guillotine, la monstrueuse, l'immonde, consommant l'irréparable injustice au nom de la justice humaine. Une idée seule restait en lui, cette idée de justice qui l'affolait, jusqu'à tout abolir dans son cerveau de penseur, à ne laisser que le flamboiement de l'acte juste, par lequel il allait réparer le mal, assurer l'éternel bien. Salva l'avait regardé, et la contagion avait agi. Il ne brûlait plus que de la folie de mourir, de donner son sang, de faire couler à flot le sang des autres, pourvu que dans l'horreur et dans l'épouvante, l'humanité décréta l'âge d'or. Pierre comprit l'aveuglement têtu d'une pareille démence, et il était bouleversé à la pensée qu'il ne le vaincrait pas. « Frère, tu es fou. Frère, ils t'ont rendu fou. C'est un vent de violence qui souffle. » On a été d'abord d'une maladresse trop impitoyable avec eux, et maintenant, voilà qu'ils se vengent les uns les autres. Il n'y a pas de raison pour que le sang cesse de couler. Frère, entends-moi, sors de ce cauchemar. Il n'est pas possible que tu sois un Salva qui tue, un Bergaz qui vole. Rappelle-toi l'hôtel de Ars qu'ils ont dévalisé. La pauvre enfant, si blonde, si jolie que nous avons vue, le ventre ouvert là-bas.
Tu n'en es pas. Tu ne peux pas en être, frère. Par grâce, par pitié. »
D'un geste, Guillaume écartait ses vaines raisons. De la mort où il croyait déjà être, qu'importaient quelques existences qui retourneraient, avec la sienne, dans l'éternel torrent de la vie. Pas une phase du monde ne s'était produite sans que des milliards d'êtres fussent broyés.
« Mais tu avais un grand dessein !» cria Pierre pour le sauver par le devoir. « Il ne t'est pas permis de t'en aller de la sorte !»
Et fiévreusement, il tâcha de réveiller en lui l'orgueil du savant. Il parla du secret dont il avait reçu la confidence, de cet engin de guerre capable de détruire des armées, de réduire les villes en poudre dont il voulait faire cadeau à la France, pour que, victorieuse dans la prochaine guerre, elle pût être ensuite la libératrice du monde. Et c'était ce dessein d'une extraordinaire grandeur qu'il avait abandonné pour employer son terrible explosif à tuer des innocents, à renverser une église qu'on relèverait à coups de millions et dont on ferait un sanctuaire de martyrs.
Guillaume souriait. « Je n'ai pas abandonné mon dessein. Je l'ai transformé, simplement. Ne t'avais-je pas dit mes doutes, mon débat anxieux ? Ah ! Croire qu'on tient dans ses mains le destin du monde, et trembler, et hésiter, en se demandant si l'on est certain d'avoir l'intelligence, la sagesse de la bonne décision. J'ai frémi devant les tares de notre grand Paris, toutes ces fautes récentes auxquelles nous venons d'assister. Je me suis demandé s'il était assez calme, assez pur, pour qu'on osât lui confier la toute-puissance. Et quel désastre si une invention comme la mienne tombait entre les mains d'un peuple fou, d'un dictateur peut-être, d'un homme de conquête qui l'emploierait à terroriser les nations sous un commun esclavage. Non, non, je ne veux pas perpétuer la guerre. Je veux la tuer. Il expliqua son nouveau projet de sa voix nette. Et Pierre eut la surprise de retrouver là les idées que lui avait déjà exposées le général de Bozonnet dans un sens tout contraire. La guerre allait à sa perte, menacée par ses excès mêmes. Avec les mercenaires autrefois, avec les conscrits ensuite, le petit nombre désigné par le sort, elle était un état et une passion. Mais du moment que tout le monde doit se battre, personne ne le veut plus. Toutes les nations en armes, c'est la fin prochaine des armées, par la force logique des choses. Combien de temps resteront-elles encore sur ce pied de paix mortel, écrasées de budgets croissants, dépensant les milliards à se tenir en respect? Et quelle délivrance, quel cri de soulagement, le jour où l'apparition d'un engin formidable, anéantissant d'un coup les armées, balayant les villes, rendrait la guerre impossible, forcerait les peuples au désarmement général. La guerre serait tuée, morte à son tour, elle qui a tant fait mourir. C'était son rêve. Il s'exaltait à la certitude de le réaliser tout à l'heure. Tout est réglé. Si je meurs, si je disparais, c'est pour que l'idée triomphe. Dans ces derniers jours, tu m'as vu m'enfermer avec Mère Grand pendant des après-midi entiers. Nous achevions de classer les documents et de nous entendre. Elle a mes ordres, elle les exécutera, quitte à donner sa vie, elle aussi, car il n'est pas d'âme plus haute ni plus brave. Dès que je vais être mort, enseveli sous ses pierres, dès qu'elle aura entendu l'explosion ébranler Paris et marqué l'ère nouvelle, elle fera parvenir à chaque grande puissance la formule de l'explosif, les dessins de la bombe et du canon spécial, des dossiers complets qu'elle a entre les mains. Et c'est ainsi que je fais à tous les peuples le cadeau terrible de destruction, de toute puissance, que je voulais faire d'abord à la France seule, pour que tous les peuples, également armés de la foudre, désarment dans la terreur et l'inutilité de s'anéantir. » Béant, Pierre l'écoutait, comme si quelque engrenage le meurtrissait, le broyait sous cette conception formidable. où l'enfantillage le disputait au génie. « Si tu donnes ton secret à tous les peuples, pourquoi faire sauter cette église? Pourquoi mourir? Pour qu'on me croie !» Guillaume avait jeté ce cri avec une force extraordinaire. Et il ajouta « Il faut que ce monument soit par terre, et moi dessous. Autrement, si l'expérience n'est pas faite, si l'épouvante ne clame pas l'effroyable force destructive de l'explosif, je serai traité d'inventeur, de visionnaire. Beaucoup de morts, beaucoup de sang, pour que le sang cesse à jamais de couler.